Ah, j'imagine qu'on va passer un excellent moment puisque c'est le retour dans ma vie de la légende, Mark Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofin Environex. Audrey était bien curieuse de savoir qui était Mark Hamilton puis qu'est-ce que ça faisait un microbiologiste dans la vie.
Mais c'est parce qu'il faut dire que tu m'en parles depuis une couple de semaines,
oui,
voire
mois.
Là.
Ah, je vais sur ta page Facebook à tous les jours, Marc.
Il t'aime beaucoup,
ben,
Marc.
Ben, oui. Comment ça va, Mark Hamilton?
Hey, écoute, ça va très bien. Je suis content de te parler, Yannick. Écoute, la dernière fois, on faisait la pub et le beau temps. Dans
exact.
Tu étais dans l'autre station.
Oui.
Puis on se parlait beaucoup de divers sujets qui touchent la microbiologie. Puis je me rappelle, on se pognait en deux spots. Il y avait une, je sais pas, une news à la TV. Puis tu disais, Marc, regarde, peux-tu me la commenter? Puis
ouais.
On était dans plein de sujets.
Là. La télé t'a volé pendant deux ans, je pense, pendant la pandémie.
Facile.
On voyait du Mark Hamilton partout.
Ah ben écoute, c'était vraiment une belle tranche de vie où est-ce que, tu sais, on sait quand ça a commencé, mais on savait pas quand et comment ça allait se terminer.
Ouais.
Puis à tous les jours, on apprenait. Puis c'était ça le défi, puis c'est ça que j'aimais dans ma profession, c'est que ça n'a jamais été aussi stimulant, même si c'était une catastrophe. C'était une catastrophe qui m'a permis d'encore plus aimer ma profession,
ouais.
D'aller chercher des défis, des nouveaux micro-organismes, des virus qui commencent de plus en plus à envahir la planète. Puis je dirais, les menaces terroristes qu'on peut avoir, ou peu importe, on parle de guerre, de ci et ça, il faut penser qu'il n'y a pas plus rapide pour infecter le monde que d'avoir un nouveau virus qui arrive, une nouvelle bactérie, une super bactérie, puis la panique est pognée à la grandeur du monde. Et de plus en plus avec les changements climatiques, de plus en plus avec les manipulations génétiques qu'on fait avec la vie, finalement, avec l'ADN, mais on l'amène à la création de nouvelles espèces. Et je te fais juste un petit parallèle. Il y a une étude qui se fait. Bon, j'ai des copains à l'Université Laval qui étudient les glaciers qui sont en train de fondre dans l'Arctique. Et là, on découvre dans les glaciers qui sont gelés depuis plusieurs milliers, voire peut-être des millions d'années. Là, je ne sais pas, je n'ai pas trop l'historique de ces glaciers-là. Mais on découvre des nouvelles bactéries, des nouvelles espèces, voire même des virus qui existaient dans la préhistoire.
Ça, c'est dans les bulles, ça, les bulles d'air?
Dans l'eau.
Dans l'eau.
C'est dans l'eau en tant que telle, lorsqu'elles fondent. En tant que telle, cette eau-là a toujours été cristallisée, elle n'a jamais vu l'air en tant que telle. Puis là, on se rend compte que quand on va chercher les terres qui sont sous sous les glaciers qui ont fondu, des terres qui n'ont jamais été exposées à l'air depuis plusieurs années, même les glaciers en tant que tels, on fait des études pour voir, y a-t-il des micro-organismes qu'on ne connaît pas? Et là, on se rend compte qu'il y a des micro-organismes qui n'ont jamais été identifiés sur la planète, qu'on doit mettre au monde, qu'on doit identifier, regarder la pathogénicité, et s'apparente à quel type de bactéries existantes. Et ça nous expose, si tu veux, à des nouvelles espèces. Et est-ce que c'est bon ou pas bon pour nous? On ne le sait pas encore. Et qu'est-ce qui fait que de plus en plus, on trouve des espèces de micro-organismes, des virus, qui nous infectent de plus en plus, qui sont récalcitrants? C'est que l'être humain prend de plus en plus d'espace sur la planète. Et lorsqu'on arrive dans des forêts vierges qui existent depuis 25-30 000 ans, que les humains n'ont jamais mis les pieds là, et là, on se met à faire de la déforestation, on se met à changer l'environnement dans ces endroits-là, on se met aussi à côtoyer des animaux que l'être humain n'a jamais été habitué d'avoir comme quotidiennement. Et on dérange un peu ce qui est l'eau qui dort et on découvre les nouvelles espèces. Et c'est comme ça que se créent des nouvelles maladies, entre autres. Donc, on voit que l'être humain, parce qu'il prend énormément d'espace, parce qu'il a besoin beaucoup de ressources pour vivre, puis dans les 100 dernières années, il faut penser que tout ce que je vous dis là ça ne s'est pas fait dans le Moyen Âge, où est-ce que ça prenait 300 ans à inventer quelque chose. Là.
Non, c'est l'ère industrielle.
C'est l'ère industrielle. C'est que ça avance tellement vite qu'on a peine à s'habituer aux changements qui arrivent. Jumelé avec les changements climatiques, comme on voit, on est à Québec au mois de janvier, moi, même pas un pied de neige encore. C'est un bel exemple que la vie va changer dans les prochaines années. Et est-ce qu'on peut revenir en arrière? J'en doute. Là. Je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec, du moins avec ces changements-là qui s'en viennent.
Tu sais, Marc, je te donne beaucoup de crédit, mais je vais t'en donner un. Parce que pendant la pandémie, au début de la pandémie, on était très critiques à l'égard bord du gouvernement, puis on regardait ce que, vers où le gouvernement s'en allait. Puis je t'ai parlé un moment donné, puis tu n'étais pas en studio, fait que j'ai encore l'image, là, j'étais au téléphone avec toi. Tu m'avais dit, Yann, le gouvernement va faire des erreurs comme pas possible, parce que la connaissance de ce virus-là est minime. Puis attendez-vous à des grosses erreurs, des bons coups, mais surtout des mauvais coups, parce qu'on est en train de bâtir. Ta phrase était, on bâtit un avion en plein vol.
Exactement.
On tombe, on a des éléments autour de nous, puis il faut bâtir un avion de A jusqu'à Z. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder le gouvernement autrement. Plus comme étant du monde qui essayait de se sortir de la misère en faisant des erreurs qui déplaisaient à la population, bien entendu, mais on n'avait pas de connaissances là-dedans.
Exactement, c'est essai-erreur. Hein? Puis bien souvent, on regardait ce qui se passait ailleurs, puis on disait, on va essayer de copier ce qui se fait ailleurs, en souhaitant que ça fonctionne chez nous. Mais là, c'est facile à dire, 2-3 ans après, de se dire, bon, si c'était à refaire, on le ferait comment? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça serait plus facile de dire, bien, ça a marché, ça n'a pas marché, on le ferait. Bien là, tu sais, peut-être qu'on ne mettrait pas le Québec sur pause pendant 3-4 mois, puis les confinements, puis bon, les gestions de distance entre les personnes. Donc, tu sais, même le 2 mètres entre deux personnes, ça n'a jamais été vérifié
ça
scientifiquement.
Tu sais,
puis, certains ports de masques, tu sais, le confinement. Donc, on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait pour éviter que les gens se côtoient, parce que le virus était très, très, très... très contagieux. Et c'était ça. Fait que là, on s'en est sorti. Moi, une des prédictions que j'avais fait, je me rappelle, ça avait fait le tour de la province dans les médias. Dans les tout débuts, on parle à peu près en avril-mai 2020. On m'avait demandé, Marc, on a jusqu'à quand avec ça? C'était comme la prédiction. Là, ça commençait. La panique mondiale était commencée. J'ai dit, il n'y avait pas de vaccin avant ça. C'était comme, ça arrive, ça part quand, cette affaire-là? Et j'avais dit une prédiction, le virus va partir de par lui-même entre 18 et 24 mois. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a la vaccination, mais même sans la vaccination, le virus, ça a une durée de vie quand même. Ça ne peut pas être toujours envahissant éternellement.
Mais en fait, une image avec une imprimante de mémoire.
Oui, bien ça, c'est quand on parle des mutations
en
tant que telles. Parce qu'on sait qu'un virus, ça n'a pas beaucoup d'ADN, ça n'a pas beaucoup de chromosomes. Ça peut se muter très, très facilement à des différents changements d'un individu à l'autre. Puis qu'est-ce qui fait que l'imprimante, en tant que telle, ben, d'un individu à l'autre, elle se recombine. Et le virus, plus qu'il se recombine sur lui-même, puis il peut y avoir des erreurs qui vont créer des mutations. Même chose que la millième photocopie est plus pâle que la première, puis les chiffres commencent à être différents. Tu vois, là, on le voit, là, plus la photocopie est vieille, moins c'est lisible. Mais le virus, quand il se réplique, à un moment donné, il vient d'oublier une lettre, puis c'est un nouveau virus, un nouveau variant qui part, et là, tiens, on recommence avec une nouvelle génération, que là, on est réexposé. Mais toute forme de virus, ça va toujours persister dans le temps, mais il va toujours avoir des vagues puis des moments plus critiques que d'autres. Mais l'avantage que nous avons, l'être humain, c'est que nous avons une excellente rate. Hein, la rate que nous avons, c'est ce qui nous protège contre les virus. Et ça a des mémoires et c'est ce qu'on appelle l'immunité collective qui fait que quand on a attrapé le virus une fois, deux fois, trois fois...
Il s'en souvient.
Il finit par s'en souvenir. Même si le virus est un peu différent, il y a une mémoire qui lui dit « j'ai déjà combattu ça d'une telle manière, donc j'ai des outils minimales qui font en sorte que j'aurai foutrement moins des effets secondaires.
Le virus est plus banal aussi.
Ouais. Là. Tranquillement, il s'essouffle.
Ouais. Marc Hamilton est devenu comment microbiologiste? Ça t'a toujours intéressé, ça?
Écoute, j'étais au cégep. Moi, j'ai toujours voulu être à la base un médecin. Au cégep, je l'ai échappé un petit peu dans mes notes. Puis j'étais super bon au secondaire. Puis au cégep, je me rappelle à l'époque... j'ai dit, écoute, ça me prenait une cotère, une moyenne générale d'environ 92% à l'époque pour s'en aller. On vient en 1992. Et j'ai fini, moi, avec une moyenne générale de 88. Puis, j'avais été mis à la sideline un peu en disant que t'es sa liste de rappel, là, comme on dit. Là, il y en a d'autres avant toi meilleurs que toi. Puis, je lui ai dit, je vais m'essayer dans quelque chose qui, est nouveau. Puis la microbiologie, c'était plus ou moins connu, pas autant qu'aujourd'hui. Puis j'ai dit, bon, écoute, c'est connexe un peu à la médecine. Puis je me suis en été là-dedans aveuglément, de dire, je vais voir si j'aime ça. Tu sais, au pire, si j'aime pas ça, ben je m'en irai dans d'autres choses. Puis j'ai accroché bien raide. J'ai bien aimé ça. Puis c'est très, très large, la microbiologie. Hein. Là, on parle de COVID, mais ça peut être autant dans les aliments, dans l'eau, dans l'air.
Ouais.
C'est incroyable comme quoi qu'on est entouré de bactéries, de virus, de champignons. Et ça m'a fasciné, qui fait que, bon, j'en ai fait même créer deux entreprises qui a focusé vraiment, entre autres, sur la microbiologie, la chimie, la biochimie, mais la microbiologie m'a emmené à développer mon côté entrepreneur.
Mais t'étais-tu un rat de laboratoire?
J'aimais ça, mais pas tant. Je veux dire, j'étais un gars qui était beaucoup dans les concepts, beaucoup dans la compréhension, bâtir des méthodes, interprétation de résultats. Mais techniquement parlant, j'étais pas mauvais, mais c'était pas ma spécialité. Donc moi, c'était plus de développer une méthode, de trouver comment identifier une nouvelle bactérie, de développer des méthodes PCR qui, quand on revient 25 ans en arrière, c'était très, très nouveau. Le PCR, c'est la méthode qui est utilisée, entre autres, pour découvrir la COVID. Durant la COVID, nous, on faisait au laboratoire plus de 5000 tests par jour de COVID, puis c'était par le polymerase chain reaction. C'est une méthode qui, à l'époque, était compliquée, qu'aujourd'hui, c'est très simple à faire, là. Facile à dire, mais c'était simple. Puis c'est une méthode qui sert essentiellement à l'identification bactérienne, dans tout ce qui est identification de micro-organismes.
Mais c'est le même qu'on appelait les tests carrément, les tests PCR.
Les tests PCR, exactement. Mais il y a 25 ans passés, c'était très nouveau, tu sais, ça couvrait pas les rues, c'était plus les universitaires qui avaient ça, donc tranquillement, mais ça s'est industrialisé, ça s'est miniaturisé aussi, qui fait qu'aujourd'hui, c'est des méthodes plus simples à faire.
Fait que tu as été peut-être un rat de laboratoire, mais t'aimais plus les concepts, les connaissances et tout ça, puis à un moment donné, tu as décidé d'en faire une entreprise.
Exactement, qui a commencé en 98. Lorsque j'avais 25 ans, le laboratoire biomédic.
Oui.
Je pense qu'on s'est connus dans le temps que j'avais biomédic. Et Environex, que j'ai créé en 2005, qui est encore l'entreprise pour qui je travaille, que je développe finalement. Et biomédic, ça, j'avais vendu biomédic en 1er janvier 2014 à Dynacare, qui était mon plus gros compétiteur dans les analyses de laboratoire privé, sanguine, urinaire, etc.
Ouais.
Là. Et je m'étais concentré 100% de mes énergies après ça au développement d'Environex, qui fait qu'aujourd'hui, bon, on est très multidisciplinaire, beaucoup en microbiologie et en chimie, mais très, très large en termes d'identification bactérienne.
Puis vous êtes au Québec puis en Europe?
On est en Québec, en Europe. Au Québec, nos principaux laboratoires, bien, le siège social est à Québec. On a nos principaux laboratoires, on est en Longueuil. On a des bureaux à Ottawa, Sherbrooke, Toronto, Edmonton. On a plus de 700 employés au Canada. Donc, puis qui travaillent principalement dans les différents domaines environnementaux.
Vous n'étiez pas en Europe aussi un certain temps?
Oui. On est en Europe, en France, en Belgique. On
c'est une belle histoire.
Oh oui, c'est.
Tu peux être fier de ce que tu as bâti avec toute ton équipe.
On travaille fort.
Ça a l'air niaiseux comme question, là, mais au quotidien, mettons, là, qui fait affaire à ton entreprise? Est-ce que tu travailles avec le gouvernement? C'est-tu de la recherche et développement? J'ai comme de la misère à concevoir exactement quand est-ce qu'on fait affaire à un microbiologiste.
Bien, il faut penser que la microbiologie est une science, mais je ne suis pas tout seul. Autrement dit, les gens qui font affaire avec nous, on est une business, beaucoup qui fait affaire avec des business. Business to business et non pas business to customer. Donc, on ne donne pas vraiment de service à la population. Je dirais, le seul service à la population qu'on donne, c'est que, mettons, que tu as une eau potable, une eau de puits. Tu as un puits, puis là, tu te dis, je vais voir est-ce que si mon eau est buvable, est potable. Donc, vous venez chez nous, on fait une analyse d'eau potable, des coliformes totaux, fécaux, quelques ingrédients, des paramètres chimiques. Puis on dit, regarde, ton eau est bonne à boire ou pas. Ou fait la traiter parce qu'il y a trop de métaux dedans. Ça, c'est quelque chose que monsieur tout le monde connaît bien chez nous. Sinon, bien, c'est des grandes entreprises qui font affaire avec nous. Prenez juste un exemple, l'entreprise ou municipalité. On parle d'eau potable. Il y a plus de 800 municipalités au Québec qui font analyser leurs eaux chez nous. Savez-vous qu'à chaque fois que vous êtes dans une ville, que vous payez des taxes d'eau, donc que l'eau vous donne, que la ville vous donne de l'eau potable, mais la ville est obligée d'analyser cette eau-là pour vous assurer que l'eau que vous buvez elle n'est pas contaminée, qu'elle vous rend malade. Mais elle fait affaire avec des entreprises comme nous pour s'assurer qu'à toutes les semaines, il y a des tests qui sont faits rigoureusement. Et quand on entend parler qu'une ville est en avis d'ébullition, faites bouillir votre eau 5 minutes avant de la consommer, bien ça, c'est un signe qu'un laboratoire ou par prévention, ils ont décidé de faire bouillir leur eau parce qu'il y avait un risque à la population d'attraper une un colis, par exemple, une maladie associée gastro-intestinale. Des entreprises alimentaires qui font affaire avec nous, le nom de votre...
Leclerc.
De Leclerc, exemple, font affaire avec nous pour analyser la qualité de leurs produits, pour voir s'ils sont propres à la consommation. Vous savez qu'au Canada, on est dans une entreprise qui est très, très, très légiférée en termes de salubrité des aliments pour s'assurer que tout ce qu'on consomme, que ce soit de la saucisse, que ce soit des biscuits, que ce soit du poulet, de la viande, des produits prêts à manger, des sous-marins, les épiceries, se doit, à chaque fois qu'ils font un lot, d'en faire analyser un dans un laboratoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries comme E. coli, comme les Listeria, comme les salmonelles, qui fait que bien souvent, on va entendre parler. Santé Canada a fait un claim de rappeler, exemple, des salades qui contiennent du E. coli. Et là, à ce moment-là, ça fait un tollé. Hey, il y a des gens qu'on peut manger une salade. Bon, bien ça, c'est des analyses qui, nous, on fait. Pour okay. s'assurer et minimiser l'impact de rendre les gens malades sur la consommation. On fait ces mêmes genres de tests-là sur des tests nutraceutiques. Un exemple, les vitamines que tu manges, que tu prends tous les jours. Mais quand ils disent dans les vitamines, il y a 300 mg de vitamine C, bien nous, on va le dire. Il y a réellement 300 mg de vitamine C.
On peut le tester.
On peut le tester okay. pour s'assurer que l'étiquette nutritionnelle
est bonne.
Que ce n'est pas faussé, qu'il n'y a pas une batch qui fait que, oups, se sont trompés puis ont garoché plus ou moins d'un produit. Est-ce que le produit que vous mangez est propre à la consommation? Exemple, les nutraceutiques ou des gens, les poudres qu'on prend, les gens qui s'entraînent, là, de la whey, ces choses-là. Est-ce que la poudre, il n'y a pas quelque chose durant la fabrication qui aurait pu faire qu'il y a une bactérie qui s'installe dedans pour se rendre malade? Donc, on est là beaucoup pour l'innocuité alimentaire, l'innocuité au niveau de l'environnement. Et ça, si on parle que de la microbiologie, de la chimie. Mais on fait aussi des tests qu'on appelle, quand on parle de pur environnement, de décontamination des sols contaminés. Donc, vous avez un endroit où est-ce qu'il y a découvert des hydrocarbures dans les sols. Puis là, ils vont dire, bien là, on veut décontaminer le terrain pour la revendre. Bien, les sols, c'est nous qui vont les tester, entre autres, pour dire, y a-t-il des risques, puis comment les décontaminer. On fait aussi des tests sur dans l'agriculture. Prenez un exemple juste, ce que des troupeaux, les vaches fonctionnent, mangent, bien, le foin. Bien, nous, juste un exemple que je peux vous donner. Quand vous vous promenez sur la vin, puis vous voyez, exemple, des grosses balles de foin là, emballées blanc, là, puis bien, ça, chaque balle de foin, en général, est analysée pour s'assurer des éléments nutritifs qu'il y a dans le foin.
Oui, mon doux, c'est dans tout, là.
Dans le foin, parce que quand on veut vraiment donner... que la vache soit bien nourrie pour qu'elle donne vraiment du lait de qualité, bien, il faut qu'elle ait une nutrition qui fait qu'elle va être productive pour le fermier à donner beaucoup de kilogrammes de lait, de crème à tous les jours.
Ouais.
Et c'est beaucoup dans l'alimentation. Donc, le seul moyen de voir, c'est si une alimentation est bonne. Y a-t-il assez de carbone? Y a-t-il assez d'azote? Y a-t-il assez de calories? Y a-t-il assez de sel dedans? Bien, c'est des laboratoires comme nous qui vont dire, bien, ta balle de foin, c'est un élément nutritif, c'est ça. Fait que là, il va dire, ah, OK, cette balle de foin-là est très riche en nutriments. Donc, c'est des exemples comme ça, c'est très large que ce qu'on peut faire. Puis ça peut être même des tests COVID dans le temps qu'on faisait.
Là. Toi, un gars qui travaille dans ce domaine-là, quand tu vas en voyage dans d'autres pays, j'ai un de mes chums qui est au Pérou présentement, puis il était dans les montagnes et tout ça, puis là, il visitait certains marchés et tout ça. Puis sur les images, je vois qu'il y a des poulets qui ont été, tués, puis après ça, ils ont été embrochés, sont dans l'air à température ambiante. Puis c'est des marchés de viande comme ça, alors que chez nous, la boucherie, tu sais, ils sont tout le temps, ils aseptisent et tout. Quand tu te promènes comme ça dans les marchés, ça te joue-tu dans la tête en disant OK, il y a un peu, les autres, ils n'ont pas les mêmes techniques que nous autres?
Faut penser une chose. Chaque pays a sa manière de gérer sa réglementation. Les pays les plus industrialisés ont des normes pour manipuler les aliments, les conserver, les couper, les tester. Au même titre que ton ami qui était au Pérou, qui suspend des poulets puis que les gens servent. Là. Moi, j'étais allé une fois en Chine, puis ça m'avait, pour les mêmes raisons, il y avait une espèce de brebis d'agneau, un mouton.
Un meat market.
Un meat market. T'arrives, tu te promènes, puis le mouton il est palanté là. Cru. Puis là, la personne arrive, puis elle dit, ben donne-moi un petit morceau. Le gars, il arrive avec un couteau. On ne sait pas s'il est propre. Il coupe, tac, 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 tac. Met ça quasiment sur une napkin, puis va-t'en avec ça. Puis le gars mange ça pour souper. C'est sûr que nous autres, demain matin, on s'en va là, puis on décide de goûter à ces aliments-là.
On tombe malade.
C'est tu as 3 chances sur 4 que le soir, là, tu files mal, pas à peu près. Notre système immunitaire n'a pas été accoutumé à manger des aliments crus, peu cuits, avec entreposés, avec les moyens du bord, qu'à rester 3-4 jours à l'air ambiant, les mouches sont dessus, puis bon, on les tasse, puis on mange de la viande. Écoute, c'est sûr que nous autres, on est dans un pays ultra-industrialisé, puis c'est très réglementé.
Est-ce qu'on se nuit?
Bien, c'est sûr qu'ils ont un système immunitaire plus tolérant que nous autres. Un exemple que je vais vous donner encore plus flagrant. Rappelez-vous, avant les fêtes, les gens disaient il y a tel resort en République dominicaine qu'ils ont attrapé toute la tourista. Puis là, c'était comme, hey, je me rappelle, les réseaux sociaux, allez pas dans tel resort, le monde est malade, j'ai été malade comme un chien pendant 4 jours, tout le monde m'a revenu au Québec, puis tu sais. Puis, ben, ça avait l'exemple, parce que les gens de la République buvaient la même eau, ils sont pas malades. Tu sais, c'est parce que eux sont... l'eau qu'on consomme au Québec, elle est chlorée, elle est testée, il n'y a aucun micro-organisme dedans, qui fait que notre corps n'est jamais vraiment exposé à des micro-organismes qui, un pays où est-ce qu'ils prennent l'eau dans laquelle ils se lavent puis la boivent, bien, eux autres, bon, vont probablement avoir des petits malaises gastriques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ultra-résistants, mais foutrement mieux résistants que nous à manger, à boire des aliments... que nous, ce serait intolérable.
Mais à long terme, ça joue-tu sur l'espérance de vie? Parce qu'au Canada, on ne meurt plus.
Ce que ça crée d'être dans un milieu ultra-aseptisé, ça va créer des effets secondaires, entre autres. Ça va créer beaucoup des symptômes d'allergie. Des symptômes où est-ce qu'on veut vivre tellement dans des places où est-ce qu'on veut une conservation des aliments élevés, on vit dans un milieu industrialisé. Donc, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune... on allait à la garderie, bien, à ce temps-là, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Là. C'était nos parents, nos grands-parents qui nous gardaient. Mais c'était très rare qu'on voyait quelqu'un qui était allergique aux arachides, quelqu'un qui était allergique au pollen, aux arachides, whatever, puis l'épipène. Aujourd'hui, on va dans une garderie scolaire ou une garderie, il y a un mur de célébrité, entre guillemets, excusez-moi l'expression, d'épipène. Lui, il est allergique à ci, il est allergique à ça, faites
lactose,
attention à ci.
Poisson,
fruits de mer. Ça n'en finit plus. Mais l'autre, il y a une petite pompe. Puis l'enfant, à bas âge, il y a une petite pompe. Donc, toute l'industrialisation, toute l'utilisation de consommation de produits chimiques amène que notre système immunitaire se dérègle. Parce qu'un exemple que je vais vous donner, le fait qu'on respire toujours de l'air filtré, de l'air qui est le moins pollué possible, du moins qu'on essaye, bien, notre système immunitaire, lui, à chaque fois qu'il va voir quelque chose d'anormal, il va réagir. Ce qui était tout à fait normal dans l'ancien temps, aujourd'hui, il va se dire, bien, je vais réagir à un pollen de chat parce que dans l'ancien temps, les animaux côtoyaient beaucoup les êtres humains. Les gens allaient dehors, donc ils étaient très exposés au pollen, exposés à l'environnement. Tout ce qui se passe dans l'environnement, jouait dans le sable, on avait des virus dans les mains parce qu'on avait les mains sales, on continuait. Puis le système immunitaire se forgeait de même. Aujourd'hui, les enfants vivent beaucoup plus à l'intérieur, vivent dans un environnement où est-ce que tu as des échangeurs d'air, tu es moins exposé. Fait quand le système immunitaire se met à être face à des pollens, face à des... qui est tout à fait inoffensif, le système immunitaire, lui, va dire, il y a une petite police, va dire, c'est quoi, c'est un pollen? J'ai jamais vraiment été en contact avec ça. Il va se faire à faire une fausse réaction qui va déclarer des allergies. Et c'est ça qui amène que ça vient de mal en pis. La même chose au niveau des aliments. Moi, j'ai un de mes bons amis qui est gastro-entérologue. On jasait justement des maladies digestives. Puis il dit, qu'est-ce qui est inquiétant? C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui attrapent des maladies digestives, étant cancer du côlon, par exemple, ou de l'estomac. Puis avant ça, on voyait des gens de 50, 60, 70 ans attraper un cancer du côlon. Aujourd'hui, on voit des gens dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, puis des choses que jamais on avait vues avant. Mais voyons qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'ai une théorie là-dessus qui pourrait expliquer ça, parce que la génération X, notre génération, ceux qui sont nés entre 1965 et 1980, ont été les premières générations à vraiment être exposées aux additifs alimentaires, aux aliments ultra-transformés. Prenez vos parents, vos grands-parents, où est-ce qu'il n'y avait pas de McDonald's, il n'y en avait pas de produits avec des pleins d'agents de conservation, des sulfates, des benzoates, puis outre la saucisse qui était faite maison, qui était un peu transformée, les gens mangeaient des fruits, des légumes, de la viande, qui n'avaient pas d'additifs dessus, on mangeait frais tout le temps. Et le fait que, dès notre naissance, dans les années 70, on s'est mis vite en contact avec des aliments ultra-transformés, avec l'avenue du micro-ondes qu'on mangeait rapidement. Tout est emballé, tout est sous vide. Notre système immunitaire n'a jamais vraiment été en contact avec ces nouveaux additifs-là, qui souvent étaient des additifs chimiques. C'est de la chimie. Notre corps n'est pas habitué de digérer des sulfates, des nitrites, des nitrates, puis un paquet comme ça. Mais le problème, c'est qu'on en mange trop souvent. Et le fait d'être constamment en contact avec une petite quantité, notre corps finit par réagir. Parce que l'être humain existe depuis plus de 20 000 ans. Mais en 20 000 ans, il n'a jamais mangé de chimique. Et là, à partir des années 70, on en mange à tous les jours. Ce qui fait que notre corps, finalement, réagit. Réagit comment? Bien, il y a des mutations qui se créent dans lui, puis ça crée justement des nouvelles maladies, des cancers qu'on n'avait pas avant, qu'on a ou non aujourd'hui. Parce que c'est une surexposition à l'industrialisation alimentaire, est un exemple, à part les polluants chimiques, etc. Mais c'est toutes des maladies qui n'existaient peu ou pas avant, que là, aujourd'hui, bien, deviennent quasi quotidiens.
Mais si c'est connu, pourquoi on continue d'aller dans cette voie-là? Est-ce qu'on pourrait faire un retour en arrière?
C'est difficile. L'autre jour, quelqu'un me disait, Marc, serait-tu possible de manger biologique tout le temps?
Hey, c'est sérieux, j'essaye là, le plus possible. Quand je fais les repas pour mes gars, j'essaye le plus possible d'être naturel, naturel, naturel. Ouais. C'est difficile, surtout quand il me demande un verre d'orange croche.
Mais tu sais, dis à un fermier, demain matin, tu n'utilises plus aucun pesticide pour faire, exemple, des champs de blé, des champs de canola, du maïs, peu importe. Il va dire, c'est impossible. Je ne serais jamais capable de produire si je n'ai pas de pesticides parce qu'il y a trop de bestioles, trop de maladies, des moisissures, avec des changements climatiques qui font qu'aujourd'hui, il peut aussi bien de la sécheresse, peut aussi bien mouiller pendant 3 semaines. J'ai besoin de pesticides pour être en mesure de fournir la planète. Aujourd'hui, à chaque année, la date qui fait que 100 % des ressources de la planète a servi à nous faire vivre, a diminué. L'année passée, je pense qu'on était rendu le 32 juin. Cette année, je ne sais pas quelle date que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à mi-année, on a épuisé toutes les ressources de la planète pour nous nourrir, que ce soit en énergie, en eau, en bouffe. Chaque année, donc, pour pouvoir être en mesure d'avoir la même qualité de vie qu'on a, on doit surexploiter les terres, on doit surexploiter les fermes, puis tout ce qui nous permet de vivre. Et la surexploitation, bien, on doit modifier certaines coutumes qui, avant ça, c'était facile. On faisait plus cuire, on faisait nos carottes nous-mêmes, nos patates, puis on mangeait bio. On n'avait pas le choix, c'est nous autres qui les plantaient. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Qui a un jardin derrière de sa maison? Hein? Ils sont où, les fermettes? Aujourd'hui, même,
plus en plus rare.
D'année en année, les terres agricoles diminuent parce qu'on les remplace pour faire des terres pour bâtir des maisons. Donc, on se doit de modifier la génétique, les OGM, pour rendre les plantes plus résistantes au changement climatique, pour être certain d'en avoir assez en fin d'année pour pouvoir survivre. Et la venue de ces additifs-là, qui fait qu'on va conserver les aliments plus longtemps, devient nécessaire parce que les besoins sont plus importants que notre capacité à produire.
Puis est-ce que c'est vrai que ça rend ça moins nutritif? J'ai entendu quelque chose il n'y a pas longtemps où on disait, puis là, écoute, j'y vais vraiment de mémoire, là, mais on disait que, mettons, un poivron, tu recules, il y a 50, 100 ans, il était beaucoup plus rempli de nutriments qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on ajoute, parce qu'on les fait quasiment pousser plus rapidement, puis on les gorge d'eau, si on veut.
Bien, c'est sûr qu'on va essayer de stimuler le plus possible leur croissance, mais à savoir si l'étiquette nutritionnelle d'un poivron en termes de vitamines...
C'est pas prouvé.
Ça, j'ai pas vraiment les statistiques. Probablement qu'il y a une bonne partie de ce que tu dis est vrai, là, parce que, bon, on veut pas, on a joué beaucoup sur des génétiques. Là, présentement, de consommer des OGM, puis on en consomme beaucoup, même des poissons. Beaucoup de saumon que vous consommez, par exemple, en canne, c'est pas déclaré, mais beaucoup de poissons en canne qu'on mange, des saumons qui ont été génétiquement modifiés pour qu'ils puissent vivre plus rapidement, grossir plus rapidement. Et on n'a pas le choix aujourd'hui. Mais est-ce que scientifiquement parlant, dans quelques années, ça va se revirer contre nous de modifier la génétique des fruits et légumes, des certains types d'aliments, genre les poissons? Est-ce que ça va créer des nouvelles maladies? Est-ce que ça va créer d'autres types de problématiques que présentement qu'on a? Parce que là, on joue avec la génétique qui paraît simple, mais à long terme, on ne sait pas.
Ouais. Pour un microbiologiste, Marc Hamilton, j'imagine que la question de l'eau, tu dois t'y intéresser. intéressé nécessairement. Les contaminants éternels, est-ce qu'on a trouvé une façon de pouvoir s'en débarrasser? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites à ce sujet-là pour être sûr et certain qu'un jour, on soit capable de la purifier, qui va faire en sorte que ces fameux contaminants éternels-là ne soient finalement plus éternels?
Les fameux PFAS, ce qu'on appelle les polyfluoroalkylsulfurés.
Peux-tu me répéter, Audrey?
Polyalkyl fluoro. En tout cas, c'est pas facile, là. Les PFAS, présentement, il y en a partout. Il y en a dans l'eau, il y en a dans les aliments, il y en a dans votre linge, il y en a dans l'air, il y en a dans un paquet d'affaires. Aux États-Unis, c'est la folie furieuse là-bas de trouver où est-ce qu'il y en a. On sait qu'ils sont beaucoup plus exposés que nous. Les PFAS, c'est qui a créé ça? C'est principalement deux compagnies, la compagnie DuPont, la compagnie 3M, qui, prenez juste par exemple le Teflon. Hein, ou le Tefal, les poils Tefal dans le temps. Aujourd'hui, c'est... Je ne veux pas faire paniquer personne, mais ceux qui ont des poils Tefal, on a fait des tests, que nous, on fait des tests PFAS déjà. Et il n'y a pas de danger. On a gratté les fonds de poils Tefal en disant, y a-t-il des PFAS là-dedans parce qu'il y a du Teflon? Puis c'est très, très, très négligeable. Donc, autrement dit, les PFAS sont très bien encapsulés d'une poêle Tefal. Le problème, je ne sais pas si vous avez écouté dernièrement, ça a passé à Enquête à Radio-Canada, les habits de pompiers, qui rend les habits de pompiers inifuges, hydrofuges. Donc, il y a une espèce de doublure à l'intérieur du manteau qui est bourrée de PFAS. Parce que les PFAS... Ça a beaucoup de qualité. Hein? C'est léger, c'est isolant, ça permet l'air c'est hydrofuge, inifuge. Ça a un paquet de choses. Et ça a été créé dans les années, dans le temps de la conquête de l'espace. Dans le temps qu'ils voulaient envoyer des fusées dans l'atmosphère, ils voulaient voir comment est-ce que le métal peut résister à des températures allant à 1000 degrés quand il traverse l'atmosphère. Et les scientifiques du temps ont découvert les PFAS en disant « si tu recouvres le métal de PFAS, tu vas avoir une espèce de bouclier qui va te permettre à résister à des températures extrêmes, puis les habits d'astronautes aussi et tout le tralala. » Et là, dans ce temps-là, il n'était pas pour douter que les PFAS allaient être 50 ans plus tard très dangereux pour la santé. Et en fait partout. Là, ils ont dit, on va en faire du Teflon, on va en faire, exemple, des Gore-Tex, on va en faire un paquet de... Puis il y en a partout, là. Juste les...
C'est quoi un PFAS, mettons, en français, là, pour que tout le monde se comprenne? Là?
C'est un composé chimique c'est un carbone. Si on prend une structure de carbone, octogone, si on veut, et chaque atome de carbone est attaché à un fluor. Et ce qui fait le produit très difficilement biodégradable avec le temps, il appelle ça un toluant éternel. Bon, c'est pas éternel, ça finit par se dégrader, là. Puis qu'est-ce qui fait que dans l'eau potable, les gens me disent, il y en a dans l'eau potable, il y a des municipalités, entre autres, qui ont été nommées là, au Québec, qui en a dans leur puits. Puis là, les gens boivent ça, puis ils disent, je vais devenir malade. Oui, il y a des effets secondaires associés à ça dans le temps. Mais les PFAS, la bonne nouvelle, c'est que dans l'eau, il y a des moyens de l'éliminer.
Okay.
Donc, ça se filtre. Et... prenez un exemple, des filtres de style Brita que les gens ont, là, qui mettent directement à l'aqueduc. Il y en a certains, il y a une accréditation, ISO XYZ, qui fait que lorsque l'eau passe au travers de ce filtre-là, ça retient les PFAS. De sorte qu'il y a moyen, même si on a une eau potentiellement contaminée, d'utiliser des filtres pour éliminer à la source les PFAS. Et le filtre lui-même, lui, se doit être disposé comme une espèce de déchet dangereux parce que là, il y a une concentration de PFAS dedans. Là, c'est sûr que c'est une autre histoire de le disposer. Mais les PFAS, le problème qu'on a au Canada présentement, c'est que il n'y a pas vraiment de réglementation qui est en vigueur présentement. Donc, on n'a pas d'obligation de tester. Ça va venir probablement dans les deux prochaines années. Où est-ce qu'on va les tester dans l'eau? On va les tester dans les aliments? On va les tester dans toutes les places qu'on pense qu'il pourrait en avoir, dans les textiles, entre autres, pour diminuer l'exposition des êtres humains aux PFAS, parce que les PFAS vont créer des problèmes, exemple, pourraient causer des cancers de la glande thyroïde, des cancers neurologiques. C'est prouvé scientifiquement des gens qui ont été exposés pendant plusieurs années, même des cancers testiculaires. Donc, ce n'est plus une coïncidence que quelqu'un qui est exposé au PFAS pendant plusieurs années dans son milieu de travail, qui développe une maladie qu'aujourd'hui on pourrait considérer de professionnelle, parce qu'il y a vraiment une corrélation entre l'exposition de PFAS à l'être humain pendant une période donnée. Donc, ça va être probablement le prochain contaminant qui va être le plus médiatisé dans les prochaines années.
Je reviens à tout ce qui est aseptisation de la société, là. C'est un raccourci intellectuel que je fais, là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est mieux, dès la naissance, assez jeune, de se désensibiliser à tout au niveau de l'alimentation? Quand j'étais jeune, Marc, ma mère me disait « Mets pas tes doigts dans ta bouche! » Puis j'avais le réflexe souvent de dire « Je me fais des anticorps! »
Oui, parce que nous autres, dans notre temps, on mangeait du sable.
Ben non, mais c'est carrément ça. Quand on est jeune, tu te mets de la terre dans la bouche. Tu veux dire, mon Dieu, tu touches à tout, tu te mets tout dans la bouche. Est-ce que les parents sont quasiment mieux de laisser faire les enfants?
Bien, écoute, le problème qu'on a, c'est... Oui, mais moi, j'ai rien contre l'idée là, de dire allez jouer dehors, puis salissez-vous les mains. Puis moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais toujours un ami qui avait une verrue sur les mains parce qu'il jouait dans le sable, puis il attrapait une verrue, puis il y avait peut-être quelque chose à enlever, puis on vivait bien avec ça. Les gens avaient les mains sales, les gens prenaient leur douche une fois par trois jours. Puis... on entendait beaucoup moins parler, comme tu le disais tantôt, des allergies. Les gens jouaient dehors. Les gens étaient exposés. Même les animaux jouaient dehors. Les animaux sont en dedans à cette heure. T'sais. Cette surexposition-là faisait en sorte qu'on se renforcissait.
Ouais.
Puis aujourd'hui, tous les enfants sont vaccinés, puis c'est correct aussi, là. Mais dans notre temps, la vaccination n'était plus ou moins là. Puis il y avait quand même la varicelle qui passait, il y avait la rougeole qui passait. Aujourd'hui, la rougeole, il y a quelques petites épidémies qui sortent. Elle sort parce que c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés, étant jeunes, là, elle revient. Mais c'est sûr que dans l'ancien temps, ça fait pas si longtemps que ça, là, la vaccination était très peu là. Donc, les gens attrapaient ces maladies-là. Mais des fois, c'était des maladies graves. Les gens attrapaient la polio, il y avait des effets secondaires. Les femmes attrapaient la rubéole pendant qu'elles étaient enceintes. Fait que là, ils se ramassaient avec un enfant qui pouvait être sourd à la naissance. La vaccination a permis de contrôler les maladies virales prévisibles, qui fait qu'aujourd'hui, on les a éliminées. Mais en contrepartie, on se ramasse avec d'autres effets secondaires le système immunitaire est un petit peu plus lâche parce qu'il n'est pas aussi stimulé qu'avant, parce que le vaccin fait la job. Il est moins stimulé parce que les enfants jouent essentiellement peut-être 80 % du temps en dedans. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait « Va jouer dehors, là. T'essayes, là. Ouais, arrête de salir la maison, va t'en jouer dehors. » Puis on en revenait au souper. Aujourd'hui, faut que tu donnes un coup de pied dans le cul de ton enfant qui est dehors.
Mais c'est vrai, puis tu parlais des animaux.
Considère ça comme une punition.
Oui, carrément. Tu parlais des animaux, Marc, je trouve ça intéressant parce que moi, tu vois, j'ai un chien de 5 ans, puis on m'a sorti cette année que mon chien faisait des allergies, puis je pensais même pas que c'était possible.
Oui. Beaucoup d'animaux aujourd'hui, c'est surprenant la quantité d'animaux qui sont allergiques au pollen, qui se mettent à éternuer, qui ont des problèmes au niveau des yeux. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les animaux aujourd'hui, un peu comme nous autres, hein? Ils mangent des produits chimiques dans leurs aliments aussi. Là. C'est pas tout de la viande fraîche qu'ils mangent, là, puis des choses comme ça. Là, c'est un peu comme ça, c'est transformé. Il y a de plus en plus d'animaux qui sont allergiques à des aliments. Prends juste mon chien, moi, j'ai un beau labradoodle, il y a 3 ans aujourd'hui. Puis écoute, quand elle avait 3 mois, écoute, là, elle avait une diarrhée. C'était étonnant. Moi, je l'appelais mon night pooper dog parce qu'elle faisait tout le temps ça la nuit. Ça me réveillait, ça sentait le diable dans la maison, elle se lamentait. Puis là, je disais, voyons, qu'est-ce que t'as, tu sais? Puis à un moment donné, je me suis choqué, j'ai dit, m'a changé, c'est l'alimentation. Et curieusement, quand je suis allé au vendeur, je me rappelle, j'avais été chez Chico à l'époque, il m'a dit, ton chien, là, dans ce qu'il mange, y a-tu du poulet?
L'ami est allergique aussi au poulet.
J'ai dit, bonne question, je vais m'apporter ma poche. J'ai dit, oui, premier ingrédient du poulet. Ben là, il dit, écoute, si je vois ça fréquemment, des chiens allergiques au poulet. Fait que là, il m'en a donné une que c'était, exemple, l'agneau. Écoute, ça a réglé le problème.
Ouais.
Ah ouais.
Puis aujourd'hui, je surveille ça même dans les petites friandises qu'on lui donne. Là. S'il y a du poulet dedans, elle va se ramasser avec des selles molles. T'sais. Elle sera moins réactive. Donc, tu sais, ça touche pas rien que l'être humain. T'sais. Les animaux qui sont en captivité, qui jouent moins à l'extérieur, qui sont... je dirais, une sédentarité alimentaire où est-ce qu'ils mangent toujours la même affaire. Puis des fois, c'est pas toujours la très haute qualité qu'on leur donne. Mais ils développent des maladies humaines. Et le chien devient humanisés, donc ils pognent des maladies d'être
humain. Est-ce que la grippe aviaire, on en parle beaucoup aux États-Unis, un peu au Canada. As-tu des raisons de craindre la grippe aviaire?
Ben, la grippe aviaire, il faut penser que c'est une grippe qui touche essentiellement les animaux de ferme. Exemple, ouais. Le poulet, la dinde, ces choses-là. Et d'où est-ce que ça vient, la grippe aviaire? Ça vient essentiellement des animaux migrateurs, mais des oiseaux migrateurs qui, eux, ça peut être des canards, ça peut être des oies sauvages qui voyagent interpays. Et eux sont porteurs sains de la grippe aviaire. Donc, ils vivent très bien avec, puis ça passe. Mais lorsqu'ils s'installent le printemps puis qu'ils font leurs besoins dans les fermes, ils arrêtent, puis ils sont proches des animaux de ferme, tu sais, dans les grandes basses-cours, bien, de côtoyer des animaux sauvages, les oiseaux sauvages avec des animaux de ferme, parce que dans leurs excréments, ils en ont. Puis bien souvent, les animaux vont manipuler, vont manger une partie des excréments des autres animaux. Ils vont attraper la grippe aviaire. Et lorsque tu mets un poulet contaminé au travers de 10 000 autres, bien, dans le temps de 3-4 jours, sont tous contaminés.
Ça a-tu déjà été transmis à l'homme?
C'est ça qu'on ne veut pas qu'il arrive. Présentement, qu'il y ait une mutation d'une grippe aviaire d'un oiseau directement à l'être humain sans passer par un mammifère, c'est comme deux étapes. Il y a à peu près une soixantaine de cas, sur les 15 cas qui étaient recensés l'année passée partout dans le monde, où est-ce que l'être humain qui côtoyait des animaux de basse-cour, du moins des oiseaux, l'a attrapé. La bonne nouvelle, c'est oui, il était très malade, là. Il n'y a pas eu beaucoup de décès, quelques décès quand même. Ça a été contrôlé. C'est comme vraiment pogner une très, très grosse grippe là, qui vient avec des pneumonies. Vraiment une grosse grippe comme dans le temps qu'on avait les épidémies de H1N1. Là, ouais. Faites-vous
donc,
vacciner.
Pour des personnes âgées, ça peut être tragique. Là.
Oui. Le seul avantage qu'il y a au moment où on se parle, c'est que ce virus-là ne se transmet pas d'humain à humain. Donc, on l'attrape d'un animal, mais l'être humain, un coup qui est porteur de la maladie, ne la transmet pas à un autre être humain. Et c'est ce qui nous permet de limiter ce qu'on appelle une épidémie ou une future pandémie de cette grippe-là. Et notre crainte que nous avons, c'est considérant que là, la grippe aviaire, aux États-Unis, c'est la panique. Il y a 16 États américains, plus de 800 troupeaux, que la grippe aviaire a passé de l'oiseau et a contaminé les troupeaux de vaches. Et là, les vaches sont prises avec la grippe aviaire. Donc, mais l'avantage, c'est que les vaches, on les tue pas parce qu'elles finissent par survivre à ça, développent ses anticorps, mais elle va être comme un bon 10 jours où est-ce qu'elle va faire de la fièvre, où est-ce qu'elle va avoir des selles molles, où est-ce que son lait va être épais. Quand il va sortir du pied de vache, ça va être un lait qui va être plus épaissi. Donc, les fermiers vont s'en rendre compte vite que la vache ne mange pas beaucoup, le lait est différent. Et là, ben, il faut qu'il l'isole pour pas que d'autres vaches l'attrapent. Fait que là, il isole la vache, puis elle finit par passer au travers. Le poulet, lui, il n'a pas cette chance-là. Le poulet, lui, quand il attrape la grippe aviaire, bien, ses effets secondaires sont plus systémiques. Il va se mettre à éternuer, la tête va y grossir, il va enfler, il va pogner la diarrhée, puis il peut mourir d'une mort subite, bang, paf, comme ça. Fait que le poulet, lui, on ne peut pas le mettre en quarantaine longtemps. Dès que la grippe aviaire rentre dans un troupeau, il faut décimer le troupeau pour éviter que ça aille chercher d'autres fermes autour. Donc, on peut tuer 10, 15, 20, 100 000 poulets là, rapidement comme ça.
C'est pas mangeable.
Puis la viande, on ne peut rien faire avec.
La viande, non, on ne veut pas la manger non plus. Scientifiquement, il n'y a pas de risque, surtout si on fait bien cuire la viande. Parce que le poulet, on ne mange pas ça cru. Hein? C'est pas un sushi, là. En tout cas, ceux qui mangent des sushis de poulet, là, je sais qu'il y en a qui le font, mais je ne le conseille pas.
Dernière fois que tu as mangé un tartare de poulet?
Ah, c'est longtemps!
Donc, c'est pour éviter. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais c'est parce que si on mange de la viande qui est bien cuite,
ouais,
ben, le virus ne passe pas au travers d'une viande crue peut-être.
Okay.
Les grippes aviaires, on sait que les animaux de ferme, les chats, les chiens, peuvent être porteurs de la grippe aviaire, mais pour eux, ils s'en tirent bien. Le problème qu'on veut pas, c'est que parce que les hommes côtoient beaucoup ces animaux-là en ferme, qui développeraient une souche du virus H5N1, qui est un virus de grippe aviaire, viennent parfaitement adaptés à l'être humain et que l'être humain se met à transmettre d'humain à humain cette grippe-là. Et là, bien, ça deviendrait... Oui, il y a des vaccins qui vont se faire, on s'entend, là. C'est pas des vaccins excessivement difficiles à faire. Mais ça pourrait créer des épisodes d'épidémie, de panique aussi, considérant que c'est une grippe qui... c'est une grippe qui est assez contagieuse et aussi, là, très... beaucoup d'effets secondaires.
Je te l'avais-tu dit qu'il était intéressant, cet homme-là?
Bien là, moi, j'ai encore plein de questions, puis on aurait pu faire un 2 heures supplémentaires, assurément, ben là, Marc. Écoute,
j'en ai plein d'autres sujets, mais c'est sûr que je suis peut-être un petit peu trop volubile.
On fait 3 heures ensemble dans le temps.
Ben, c'était facile.
On jasait 3 heures.
Devoir se reprendre, assurément. C'est vraiment intéressant.
Marc Hamilton, c'est toujours un plaisir. On rappelle aux auditeurs que tu es microbiologiste et tu es président du groupe Eurofin Environex. On se donnera un rendez-vous
et
pour
aussi,
les prochaines semaines.
Et aussi président de l'Association des microbiologistes du Québec.
En plus!
Puis ça fait ma deuxième année, effectivement.
Et le propriétaire d'une magnifique DeLorean.
Ah.
Back to the future! Merci, Marc.
Bye-bye.
Boulevard.